Éric Duhem, comment ça va, Éric Duhem?
Ça va très bien, merci. Comment est-ce qu'il va, Dominique Morin?
Très bien. Bocoté, qui est de plus en plus de droite, c'est sûr que son texte finit un peu en queue de poisson dans le journal ce matin. Il dit quasiment « Votez PQ et les libéraux, c'est de la merde. » Mais tout le reste de son texte, je te dirais que ça tient beaucoup. L'État baise. Il semble dans une... c'est pas le cas de Mathieu, là. Parce que Mathieu, il reste plus à Paris qu'à Montréal, là. Mais il semble y avoir quand même un certain peut-être début, peut-être d'éveil à Montréal. Je fais référence à Emmanuel Latraverse. L'État est obèse. Là, il y a Facal, oui, je sais, il avait co-signé les Lucides. Ah là, ça prend une révolution. Il y a comme un semi-réveil. Mais est-ce que ce réveil-là va se concrétiser en des gestes?
On n'a pas le choix, Dominique. On s'en va pas dans le mur, on est dans le mur.
Oui.
C'est ça qui est la différence avec ce qui est arrivé dans le passé. Puis ceux qui n'ont pas vu le texte de Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Québec de ce matin, le titre, là, c'est que la prochaine révolution tranquille au Québec, elle va être de droite. Okay? On sait que la révolution tranquille des années 60 était de gauche, mais que la prochaine va être de droite, puis il explique pourquoi. Mais parce que le gouvernement siphonne de plus en plus d'argent, il crée la colère chez le contribuable parce que la qualité des services se dégrade pendant que nos taxes, nos impôts augmentent.
Puis donne du crédit, Bock-Côté, donne du crédit.
Puis il dit que les Québécois ne sont pas de bonne humeur, puis il donne un exemple, pas juste moi, mais la capitale nationale, il parle de Québec, là, qui est l'exemple parce que Québec, le Parti conservateur est en avance et que ça témoigne que la prochaine révolution tranquille va être à droite. Donc, je pense que c'est important, puis c'est pas une question de partisanerie politique, là. C'est n'importe qui va avoir un rendez-vous à l'hôpital. C'est n'importe qui. Un jeune qui veut s'acheter une maison. C'est une personne qui va faire son épicerie, une mère de famille. Je veux dire, tout le monde le voit qu'il y a quelque chose qui marche plus au Québec. Ou c'est le gars qui va faire le plein d'essence à matin, là. Tout le monde voit qu'il y a un problème. Puis c'est gros comme ça, là. On peut plus l'ignorer. On peut plus faire semblant que ça existe pas. Puis que la solution, c'est encore plus de bureaucrates, c'est encore plus de taxes. L'État a explosé en termes de nombre d'employés.
Oh. C'est
insoutenable à moyen terme, même pas, puis même à court terme. Là. C'est une question de long terme. Là.
Ben, il faut couper où, Éric? J'aimerais ça entendre le Éric Duhem qui parlait dans le temps, qui écrivait des livres sur l'iniquité, je le sais, l'iniquité intergénérationnelle et les fonds de pension à prestations déterminées. Il va falloir, à un moment donné, se dire... qu'il faudra s'attaquer aux conditions chromées des fonctionnaires, mais, et là, je m'attends à une volée de bois vert, des retraités de l'État. Ça tu l'as déjà écrit. Je veux t'entendre là-dessus.
Bien, je pense que tu as raison sur une chose. Il faut que tout le monde fasse sa part. Okay? Il n'y aura pas personne qui ne peut pas être mis à profit. Puis c'est sûr que quand tu regardes le budget de l'État, là, il y a deux budgets monstres. D'abord, le système de santé, hein, c'est plus que la moitié des dépenses de programme. Là. Donc, il faut... Le système de santé, là, c'est pas un problème de ressources au Québec. Là. Si vous n'avez pas accès à un médecin, là, c'est pas parce qu'il manque d'argent, c'est parce qu'il est mal réparti. Quand c'est rendu, tantôt, tu parlais du vent qui change. Là, même l'actualité, une chronique cette semaine, là, où il explique comment les pays où ils ont des systèmes de santé parallèles, publics-privés, performent beaucoup mieux qu'au Québec, avec moins de ressources. Puis 100% des gens ont un médecin de famille.
Oui.
Puis les délais d'attente sont une fraction de ce qu'ils sont au
Mais
Québec.
On coupe où, Éric? Un matin, c'est ça ma question. On coupe.
Ben c'est un exemple. Si on additionne le privé, là, on baisse les coûts. On permet aux gens d'avoir des assurances duplicatives. Il faut réformer le système puis dégraisser la machine. Des affaires comme Santé Québec, c'est pas une solution. On aggrave le problème
dans
le contexte que la CAQ a fait. Là. Donc, on dégraisse. L'autre exemple, c'est les subventions aux entreprises. Parce qu'on est. Les gens ne savent pas ça. Des 60 États en Amérique du Nord, le Québec est celui qui est le plus généreux en termes de subventions aux entreprises. On est pratiquement les plus pauvres, mais on est ceux qui donnent les plus gros chèques aux compagnies. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
Ça continue. Nemaska Lithium.
Ah, mais nomme-les. Toutes les semaines, il y en a des millions à gauche et à droite qui sortent. D'ailleurs, Mme Fréchette, la candidate à la chefferie de la CAQ, qui est en avance présentement, sortie pour dire qu'elle allait faire différent de Fitzgibbon, mais ce matin, le journal nous rappelle que sous son leadership, par mois, elle dépensait plus que Fitzgibbon. C'est enfin comme 900 millions par mois qu'elle dépensait en subvention aux entreprises. Donc, faut arrêter là, de ce gavage-là avec les fonds publics. Là, faut que
le régime de retraite à prestations déterminées.
Bon. Ça, c'est un autre problème. En 1960, OK, il y avait 7,8 travailleurs. Ou en 1970, les chiffres, là, j'y vais de mémoire, ça fait longtemps que j'ai écrit mon livre, mais je suis pas mal dans les chiffres. Là. C'est 7 ou 8 travailleurs par retraité. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,5. OK? Le problème, il est démographique. Puis plus ça va aller, on va même descendre à 2 là, dans 10-15 ans. Là. Donc, il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins de travailleurs pour payer des prestations. Ce régime-là n'est pas viable à long terme.
Okay? Il faut faire quoi?
Une solution. Ben, il faut faire quoi? Il n'y a pas 50 000 solutions. Là. Il faut s'assurer d'abord que on donne les gens qui mettent de l'argent aient un retour sur leur investissement, oui, mais qu'en pas deux puis trois fois plus sur le dos de la prochaine génération. Il faut arrêter
Parce qu'explique comment ça marche. Tu l'as bien expliqué dans ton livre. Si, mettons, il y a une débâcle boursière pour garantir le rendement, le gouvernement, c'est lui qui va renflouer la cagnotte.
C'est ça. Puis c'est le fait que, puis ça, c'est un exemple, mais le fait qu'il y a 7-8 travailleurs versus 2,5 travailleurs, ça a une grosse différence aussi. Là. Parce que ça veut dire, pensez-y, là, c'est comme si on traînait quelqu'un sur nos épaules. Si vous êtes 7, c'est beaucoup moins pesant que si vous êtes 2. Comprenez-vous? Les risques que vous vous écrasiez sont beaucoup plus petits si vous êtes 7 à tenir quelqu'un que si vous êtes tout seul ou si vous êtes 2. Donc, le problème, c'est il est démographique. Fait que c'est soit qu'on augmente les natalités, mais je pense pas qu'on va retourner avec 5-6 enfants en moyenne par famille au Québec. Là, ça arrivera pas.
Il n'y aura pas de magie. Le prochain budget me fait peur. Là. Demain, puis, c'est ben, ça? Demain?
Oui, demain, c'est le budget de M. Girard. Puis, ben, tous les budgets de la CAQ, c'est une horreur. Fait que c'est toujours des déficits catastrophes.
Oui, mais là, c'est le déficit structurel.
Oui, c'est un déficit structurel parce que, pour expliquer structurel, ça veut dire que c'est pas une conjoncture. Là. C'est pas parce qu'il y a eu une pandémie, c'est pas parce qu'il y a eu un remboursement de quelque chose d'imprévu, c'est pas parce qu'on a perdu une cause devant un tribunal qu'on est dans la merde. Là. On est dans la merde parce que nos dépenses de fonctionnement, c'est comme payer l'épicerie à tous les semaines puis notre logement, fait en sorte que ça coûte plus cher que nos revenus. Structurel, là, à tous les mois, on est en déficit. Okay, on fait moins d'argent que ce qu'on dépense. C'est ça que ça veut dire. Et là, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête la spirale, puis la CAQ va pas du tout dans ce sens-là. Là. Et c'est juste les dépenses en santé dont je te parlais tantôt. Là. Non seulement c'est le plus gros poste budgétaire, mais la population âgée qui nécessite le plus de soins, qui coûte le plus cher, va exploser. Et ces dépenses-là, à tous les ans, ils augmentent de 4, 5, 6, même 7 % par année.
Ça, je suis au courant de tout ça, Éric. Mais moi, je veux savoir comment on fait pour retourner au déficit zéro. T'sais, on dirait que c'est même pas dans la conversation déficit zéro, mais c'est dans la conversation des humains. Des humains autour de la table, papa, maman, on regarde la carte de crédit, mais on n'arrive pas, on y va pas à Disney, puis on n'ira pas au camping cette année, on n'ira pas au restaurant. Bon, papa, maman, là, ils se parlent, là. Mais c'est plus dans la conversation, ça. Le déficit zéro, on dirait que c'est du domaine mystique. Mais ça va être 10 milliards à peu près, là, le déficit. 8-10 milliards. On fait quoi? La santé, je suis au courant. C'est pas assez, ça, Éric. Mme Biron, c'est pas assez. Il faut faire quoi?
Rappelez-vous ce que fait Stephen Harper. Okay? La dernière fois que ça a réussi pour vrai, là, c'est qu'il est arrivé là et il a dit à chaque ministre, quand ils ont été élus, vous m'arrivez avec un plan de réduction dans vos ministères de 10, 15, 20 % OK? Là, tous les ministres autour de la table sont arrivés avec un plan. Puis là, ils ont pris des décisions très difficiles. Rappelle-toi comment ça a crié, là. D'ailleurs, Stephen Harper s'est fait battre à cause de ça. Ils ont mis le bout de Justin Trudeau qui disait que les déficits ne seraient pas graves. Là. Mais Stephen Harper l'a réussi, l'exercice. Puis si, il faut que ça soit une obsession. Il ne faut pas que ça soit un ministère, mais que ça soit l'ensemble du gouvernement, que ça soit tous les ministères, tous
Donc,
les programmes.
Est-ce que toi, tu préconiserais un rapport Gobeil? Je lis devant moi le rapport Gobeil. Pour expliquer aux livers, rapport Gobeil, 1986, une commande donnée, c'est ça, par Bourassa, un espèce de comité de sages. Pierre Lortie, Michel Bélanger et Paul Gobeil. Paul Gobeil, ancien cadre de Provigo, l'État Provigo, là, finalement, au lieu de l'État Providence. Mais moi, j'ai des trucs là-dedans là, qui n'ont jamais été appliqués. Je vais faire un spécial là-dessus demain. Là, on va aller en profondeur, mais c'est une refonte complète de l'État, là, entre autres fonctions publiques. Le comité aimerait que le nombre de salariés soit ainsi diminué. Abolition de la sécurité d'emploi pour les cadres supérieurs. Élaboration d'une politique de réduction du personnel excédentaire par étapes. réaffectation, reclassement. Tu sais, tu comprends que il y a une foule. C'est une révolution que ça prend.
Oui. Ben, c'est-à-dire
ça prend-tu un rapport Gobeil pour dire on fait un ménage?
Moi, je promettrais pas des rapports. Là. Je pense que le monde n'utilise pas. C'est pas des rapports qui veulent.
Ah, mais il faut que tu saches comment opérer. Là.
Oui, je sais. Mais on le sait. Non, non, mais on le sait. Là. C'est pas. Écoute, avec le nombre d'années là, puis le nombre de problèmes qu'on a eu, là, c'est même la sécurité d'emploi. On peut même faire campagne, dire qu'on va abolir la sécurité d'emploi des fonctionnaires. On va insécuriser tout le monde. Mais ça se fait. Je veux dire, tu peux réduire les effectifs. Là, puis c'est, tu peux le négocier même l'abolition de la sécurité d'emploi. Là. T'as même pas besoin de passer de loi. Là. Tu peux arriver unilatéral puis de négocier puis de dire on coupe tant de postes puis on voit aussi comment on va répartir. Je veux dire, ça se fait. L'important, c'est que tu aies un plan de match. Puis présentement, il n'y a aucun plan de match pour revenir à un équilibre budgétaire puis à une capacité de payer là, qui est raisonnable.
Va-t-il avoir un trio économique, Adrien? Je l'adore, tout ça, mais es-tu actuellement en discussion avec des gros noms, je parle pas de vedettes, là. Je parle du solide, du monde solide en économie.
D'abord, tu as raison, là, Adrien, c'est notre porte-parole.
Oh, oui, je l'adore, on l'aime.
C'est solide.
Mais là, je vais y parler toujours en voyage. Là.
Oui, oui, il y a d'autres, ouais, d'autres mondes.
Il y a des moyens, là.
Avec d'autres bon, puis écoute, il est moyen, puis il a l'âge, puis il peut juste tomber du bon temps. Là.
Mais il va-t-il avoir des gros noms autour d'Éric Duhaime? C'est ça ma question.
Oui, il va avoir des gens autour de moi, mais je pense qu'au-delà des noms, là, ça va prendre surtout des programmes et des politiques cohérentes.
Oui, mais ça prend une équipe, là, Éric. On est rendu à bâtir de quoi.
On va avoir une équipe, inquiète-toi pas. Mais la prochaine semaine, tranquillement, on va l'annoncer, là, mais il reste un peu plus de 6 mois, mais c'est sûr et certain que ça va être la base. Puis pendant qu'il y a deux partis qui vont dire qu'ils rêvent de construire l'autobus du oui puis l'autobus du non, ben il y a un parti qui va conduire l'autobus de ceux qui veulent réviser le modèle québécois. Ça va être ça la campagne électorale, c'est pas compliqué là. Puis je pense qu'on est rendu là. Puis tu sais, moi j'ai toujours eu ces idées là, mais on l'a jamais structuré comme ça dans une campagne parce que je pense que l'opinion publique était pas prête à ça.
Vous n'avez jamais été aussi pertinent.
Mais c'est ça, c'est que présentement les politiques conservatrices sont au cœur du débat.
Oui.
Ils pourront pas dire que nos idées sont mauvaises, ils essayent toutes de nous les voler. Ça c'est l'autre affaire.
Oui.
C'est même hier, Christine Fréchette commence à dire que finalement exploiter du gaz naturel, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Non, mais elle
dit
n'importe
Québec.
Quoi, là. Fais attention.
Non, mais ça fait 4 ans qu'elle a un gouvernement qui a aboli le droit d'exploiter le gaz.
Les bras dans les airs. Elle dit n'importe quoi. Oui, mais elle dit à Gérald Filion que regarde, Cinémasca Lithium a besoin peut-être d'argent, là, peut-être qu'on va en parler. Fais attention, là, à Fréchette, non, là.
Je te dis pas que je vais l'applaudir à deux.
Mais Bernie, t'as raison. Bernie. Les deux mains dans le bac de recyclage du PCQ.
Non, mais en même temps, là, je veux dire, ça témoigne de quelque chose.
Eh oui!
Ça veut dire qu'ils voient des sondages puis qu'ils ont peur avec l'opposition de gauchistes, ça marche plus. Puis regardez où Québec solidaire, le NPD est rendu politiquement, là, sont en chute libre.
Donc, les Québécois meurent, ces listes d'attente, Éric.
C'est ça qui fait capoter le monde. Là, les gens réalisent, c'est pas parce qu'on paye pas assez. Faut arrêter. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui dit que c'est parce qu'il manque d'argent dans le système. Là. Tout le monde a compris.
Est-ce que Paul Journet, il comprend maintenant que tu y as parlé?
Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un incident qui s'est produit au cours des derniers jours. Il a écrit une chronique au sujet de la taxe carbone. Puis il dit que les idées du Parti conservateur d'abolir la taxe carbone coûteraient des milliards à se retirer de l'entente qu'on a avec la Californie. J'y ai écrit, j'ai envoyé l'article 17, l'article 20 et l'article 22 de l'entente entre le Québec et la Californie qui explique le mécanisme de retrait sans aucune poursuite, sans aucune pénalité. Là, il a révisé son texte. Il a eu l'honnêteté de le faire, il faut que je lève mon chapeau. Là, il a écrit que ça coûterait des milliards parce que les compagnies nous poursuivraient. Là, j'ai envoyé les jugements qu'il y a eu après que l'Ontario se soit retiré de la bourse carbone, puis l'Ontario a gagné toutes ses poursuites. Fait que là, il a tout enlevé. Qu'il avait écrit. Il a revisé son texte une deuxième fois.
Boy.
Mais ce qui est grave, c'est pas Paul Journet. Paul Journet, il répétait ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit depuis des mois.
Le
PQ propage un mensonge éhonté sur le fait que la taxe carbone, ça va coûter des milliards sans sortir, alors que c'est totalement faux. Ça va rapporter des milliards dans les poches des automobilistes au Québec. C'est ça la vérité. Là.
Oui, absolument. Deux petites questions avant de finir bien vite. Les arbres, ils vont être coupés. Juno, t'es au courant, le maire de Saint-Augustin et tout. Le maire de Saint-Augustin qualifie Marchand d'irresponsable. Effectivement, c'est irresponsable de ne pas avoir le financement mais d'aller de l'avant pareil avec un projet qui est nullement financé. Là.
falloir m'expliquer en quoi on va sauver la planète en coupant des arbres centenaires sur René Lévesque. Comment ces écolos-là peuvent justifier, sans même être certains qu'il va y avoir un tramway, juste par idéologie, être prêts à couper des arbres centenaires puis nous dire qu'ils font ça pour sauver la planète. Écoutez, c'est pas crédible. À un moment donné, il faut les ramener sur Terre. Là. S'ils veulent sauver la planète, il faudrait peut-être qu'ils commencent à avoir les deux pieds sur la planète Terre. C'est parce que présentement, ils les ont pas, là. Et je comprends pas cet acharnement. Tu sais, j'ai rencontré Bruno Marchand. Moi, j'ai rien contre les individus, là. Mais quand je l'ai rencontré, j'y ai parlé de ce sujet-là. Puis je lui ai dit pourquoi il attend pas le financement du fédéral. Il m'a dit il y en a pas de problème, il est bouclé le financement fédéral.
Faux.
Moi, j'ai pas de preuve de ça, puis le fédéral refuse de le dire.
Voilà. Faux.
Fait que si c'est vrai, mais qu'il nous le prouve, puis sinon, qu'il retarde son projet de couper des arbres centenaires au nom de l'environnement. Faisons le plaidoyer green, là. Il aime ça, il veut sauver la planète, là. Ben, disons que les bancs de phoques puis les bancs de neige de l'Arctique vont fondre si on coupe des arbres sur René Lévesque. Rappelez-vous, des délires verts, on a entendu, là, eux autres, là. Toutes les raisons sont bonnes pour justifier leur idéologie, mais quand il y a quelque chose de gros bon sens, comme dire qu'il faut que les arbres sur René Lévesque restent là, c'est tant qu'à moi la plus belle rue de Québec, ben là, c'est comme si, non, au nom de notre dogme, on est prêt à commettre les pires absurdités environnementales dans la région de Québec. Puis j'espère que la population va se soulever. En tout cas, moi, j'invite les conservateurs à le faire. J'espère que les autres vont faire la même chose. Puis je suis fier du maire Junot. Il faut lever notre chapeau, ça prend du courage. Là, parce qu'on le sait, la ville de Québec emmène large dans la capitale nationale. Là, et qu'un maire comme ça se lève puis aille à l'encontre du maire de Québec, là, parce que vraiment, la coupe est pleine.
Merci beaucoup, Éric Duhaime.
Bonne journée.